Wagon Livre, votre émission littéraire. Wagon Livre, un voyage au cœur de l'actualité littéraire. Présenté par Yannick Petit. Wagon Livre, c'est tous les samedis de 11h à midi sur Radion.
Heures passées de quelques secondes sur Radion. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre à bord de Wagon Livre, votre émission littéraire. Nous sommes ensemble jusqu'à midi avec un nouvel invité et je l'accueille sans plus tarder. C'est Francis Venat qui nous accompagne. Bonjour Francis.
Bonjour.
Francis Venat, nous nous sommes rencontrés au Salon du Livre d'Autun au mois d'avril dernier. Vous étiez alors au stand du musée des nourrices du Morvan et des enfants de l'assistance publique. Musée qui est installé à Aligny en Morvan. Et vous étiez là, pas seulement pour un livre consacré aux nourrices ou aux enfants, les petits paris, les enfants abandonnés, vous présentiez un texte extrêmement émouvant, c'est la raison pour laquelle j'ai grand plaisir à vous accueillir aujourd'hui. Un texte plein de douceur, plein d'affection, puisque vous revenez sur l'histoire de vos parents. C'est une grande histoire d'amour dans la tourmente et sur fond de la tourmente de la Grande Guerre. Votre ouvrage s'intitule « Moi, Lucie, 17 ans en 1939, la guerre et après ». C'est aux éditions de l'Harmattan. Avant d'évoquer le texte, Francis Venat, question rituelle, puis-je vous demander de vous présenter à nos auditrices et auditeurs ?
Alors, merci d'abord pour votre invitation et cette introduction chaleureuse. La présentation, si vous voulez, je suis né en 1949 et donc je suis un enfant, comme des millions d'enfants qu'on a qualifiés de baby-boomers. Mais ce qui ne veut pas dire grand-chose, le fait d'être né après la guerre nous a fait vivre enfants une transition sociale, économique, évidemment aussi la guerre et la paix, c'est une transition. Et une transition qui est venue de l'éducation de nos parents, qui eux avaient vécu la guerre et qui ont eu comme charge de nous faire grandir sans nous faire porter le poids de ces atrocités et de ces 5 années terribles. Ça, si vous voulez, c'est une espèce de marque d'identité qui va commander ensuite beaucoup des choses qui vont se passer. Et après, mes parents, ma maman surtout, qui elle travaillait pas parce qu'elle avait 5 enfants et mon père travaillait, ma maman a attaché un prix très grand à nous donner une éducation de bons petits élèves républicains. Et grâce à ça, après, je vais passer très vite évidemment, j'ai réussi à faire les études qu'elle espérait pour ses enfants et pour moi. Et j'ai grandi dans cet esprit-là avec une deuxième naissance, comme je dis dans la quatrième de couverture du livre, c'est-à-dire que cette deuxième naissance, c'est en fait les années 70, dans lesquelles je mets l'année 1968, qui est souvent vécu comme une espèce de révolution, de tentative de renversement politique, etc. Dimensions qui ont sans doute existé, qui ont existé, mais qui a été pour beaucoup d'enfants, pour moi en particulier, véritablement une naissance où, eh bien, c'était la richesse de la découverte des amitiés, de nouvelles activités comme le théâtre, la photographie, la poursuite des études, etc. Bon, puis après, j'ai eu une carrière professionnelle dont on pourra reparler, mais qui n'est pas forcément intéressante pour illustrer le livre.
Alors, pour bien comprendre, il s'est agi pour vous d'investir les archives familiales, puisque vous racontez l'histoire de vos parents, notamment, alors il faut expliquer qu'à l'origine de ce livre, vous avez sollicité les souvenirs de votre maman en l'interviewant, en l'interrogeant, vous avez même enregistré son témoignage, elle vous raconte sa vie, comment elle a rencontré votre père, donc deux ans avant 39. Mmh. Elle est toute jeune, elle est née en 22, donc elle a 17 ans. C'est une grande adolescente, folle d'amour pour son Élie. Lui, votre père, était ouvrier. Elle le rencontre dans un bal du 14 juillet. Et donc, vous avez écrit l'histoire familiale. Et vous avez choisi le genre littéraire de ce qu'on appelle communément l'autofiction. Et vous auriez pu finalement choisir le registre du journal, faire écrire votre maman. Alors, comment s'est opéré le choix du genre littéraire et comment s'est opéré ce travail? Qu'est-ce que je retiens de leur histoire, de leur rencontre, de leur enthousiasme, de cette passion amoureuse qui est magnifique? Ça, c'est le côté sentimental. Mais bien sûr, vous les racontez ensuite dans les grands épisodes de la guerre, de l'occupation, des souffrances et de la séparation.
Oui, oui, vous avez raison d'évoquer les archives familiales, parce que c'est exactement ça qui s'est passé à deux points de vue. D'une part, avec l'enregistrement que j'ai sollicité de la part de ma maman à un âge où, déjà où elle était assez âgée, quoi. On ne s'était pas intéressé enfant à tout ça. Eux, ils n'avaient pas voulu nous embêter avec tout ça. Et à un moment donné, j'ai en fait ouvert le micro d'un dictaphone et j'ai pris des notes. Que j'ai retranscrite scrupuleusement par écrit. Et à cette occasion-là, j'ai pu aussi réunir les lettres que mon père et ma mère s'étaient échangées pendant la guerre, y compris ce qu'on appelle la drôle de guerre, c'est-à-dire septembre 39, mai 40. Et à partir de ces deux matériaux, donc les notes des enregistrements et les lettres, j'avais une espèce de colonne vertébrale d'un récit, d'une biographie à partir de laquelle, vous avez raison, c'est exactement ça, j'ai construit une autofiction. Alors, ça veut dire quoi dans la manière de construire ce récit? C'est en fait réunir tous les éléments que j'avais qui étaient factuels, que ça soit les enregistrements, les lettres, les photographies qui elles aussi sont l'expression forte d'ambiance, etc. Et j'ai voulu faire un travail littéraire au sens de le maximum de qualité pour rendre les choses lisibles et intéressantes pour d'autres, mais aussi pour faire un récit complet à partir de cette colonne vertébrale que j'avais à disposition. Et donc, c'est là où le terme d'autofiction prend tout son sens, c'est-à-dire qu'il y a des scènes qui sont du domaine de la construction d'un roman, si vous voulez, où le plus près de la réalité, je sais que des choses sont arrivées, j'en ai pas toujours eu la description très précise, et j'en donne ma description au travers de ce que j'ai pu comprendre, des mots, de l'ambiance, du contexte historique, etc. Donc, globalement, si vous voulez, le récit est composé de chronologies exactes, du point de vue de leur vie, de sa vie à elle, de faits exacts et de moments, de séquences où justement je nourris les éléments que j'avais de choses qui leur assurent une continuité, donc une lisibilité pour le lecteur.
Alors rentrons un peu et faisons connaissance avec la famille, notamment la famille de Lucie. Donc Lucie, c'est le prénom de votre maman, Élie, c'est le prénom de votre papa dans ce texte, leur véritable prénom. Là, vous n'avez rien changé.
Tout à fait.
Voilà. Il n'y a que les prénoms de vos frères et sœurs que vous avez modifiés, et le vôtre aussi?
Par souci de respect de l'intimité. Oui, le mien forcément, parce que si je donnais le mien à un moment donné, ça, par déduction, on pouvait avoir les autres.
Alors j'ai dit en début d'émission que nous nous étions rencontrés au Salon du Livre d'Autun et que vous étiez alors sur le stand du musée des nourrices et des enfants de l'assistance publique installé à Ligny-en-Morvan. Et en fait, votre grand-père, Raphaël, dans le texte, c'est son véritable prénom, qu'on surnomme le Yel. Donc lui, il est né en 1887. C'était un enfant adopté par une famille paysanne morvandelle. Et effectivement, ce Raphaël buvait. Mmh. Donc, oui. C'est donc le père de votre maman.
Oui.
Et vous écrivez, à propos des nourrices, là on va parler un petit peu des nourrices, vous écrivez « Il fallait être pauvre pour se plier à cette animalité ». Quand vous parlez de cette animalité, c'est ce fameux travail que les nourrices exerçaient dans les familles bourgeoises ou aristocratiques à Paris en donnant leur lait à des enfants qui n'étaient pas les leurs.
Tout à fait.
Cette animalité ?
Alors, oui, parce que l'origine de l'expression, elle vient de ce que, de mon côté, j'ai beaucoup lu pour écrire des choses comme ça, que j'ai essayé de faire coller le plus possible à la réalité de l'époque. Et l'écriture que j'ai utilisée dans un premier jet, si vous voulez, je l'ai fait lire à mes filles en particulier. Et une de mes filles m'a dit, mais tu sais, c'est pas ça qui se passait. Bon, il se trouve qu'elle fait des études de psychologie et sur des domaines de l'enfance. Alors, elle connaît assez bien le sujet. C'est elle qui m'a suggéré ce terme, que j'ai trouvé très bien. Parce que, si vous voulez, l'image qu'on a un peu de loin, c'est de dire, bah oui, on va amener quelqu'un pour que s'occuper de la marmaille, un peu, bah, même quand on est bourgeois. À cette époque-là, les enfants, c'était quand même les enfants qui devaient obéir jusqu'à, après, pouvoir éventuellement reproduire les ambitions familiales. Mais l'enfance n'avait pas l'importance qu'elle a aujourd'hui. La petite enfance, ça date des années 70, hein, l'importance qu'on attache aux enfants 60-70, quoi. Et donc, l'idée, c'était, oui, en effet, les nourrices viennent pour décharger les mères des familles bourgeoises de l'occupation des enfants et de l'allaitement, mais aussi pour garder un corps qui soit un corps
non déformé,
et où l'esthétisme l'emportait sur la relation à l'enfant, quoi. Et cette relation à l'enfant, eh ben oui, elle était un peu vue d'une manière un peu péjorative, quoi, du domaine de l'animalité, quoi.
Alors, pour les garçons, par exemple, et c'est le cas de Raphaël, il est question de ces enfants loués dès leurs 13 ans dans les foires aux embauches.
Tout à fait.
Ça, évidemment, aujourd'hui, en 2018, ça nous paraît, en France, assez consternant, les enfants loués.
Oui. Alors, pour ce qui est de mon grand-père, dans le livre, je le dis, c'est-à-dire que il a été accueilli dans une famille extrêmement chaleureuse, où il a trouvé un vrai père. Et le père a trouvé un vrai fils. La famille d'adoption a eu ensuite un fils. Mais quand il est arrivé, il était le seul garçon. Alors, si vous voulez, il y a plusieurs dimensions dans tout ça. Quand les familles Morvandel faisaient venir des enfants de l'assistance, c'était pour avoir des bras, pour toucher une allocation. Mais c'était aussi parfois pour aller dans l'excès, dans l'utilisation des enfants, dont cet excès qui était loué pour encore en toucher un peu plus, quoi. Et parfois dans des relations affectives qui pouvaient être... Enfin, il y a des témoignages qui montrent que les choses ont pu être dures à certains moments entre les familles d'adoption et les enfants. Ce n'était pas le cas, là. Donc, mon grand-père a échappé à tout ça. Il a été adopté, donc une situation familiale au départ très difficile. Mais après, par exemple, on l'appelait le Yel. Le Yel, ça veut dire qu'on lui a donné un prénom. Il était intégré dans toute la campagne. Il était ensuite adolescent, adulte. Il allait faire les foires. Il a appris son métier de reconnaissance de la qualité des bêtes, etc. Donc, et puis en plus, il était bel homme. Donc, dans toutes les dimensions affectives, professionnelles, lui, il n'a pas du tout vécu cette difficulté, cette sévérité même de la vie de beaucoup d'enfants d'assistance.
Francis Venat est notre invité aujourd'hui dans Wagon Livre pour Moi, Lucie, 17 ans en 1939, La guerre et après. L'ouvrage est disponible en librairie aux éditions de l'Harmattan, mais on peut aussi le commander directement sur le site des éditions de l'Harmattan. On revient avec vous juste après la pause musicale et nous parlerons de Lucie et d'Élic. Il faut rentrer dans le vif du sujet. Bonne fin de matinée sur Radion. On se retrouve dans une poignée de minutes.
Se faire la belle, se faire la mal, faire le mur, se mettre au vert, voler la clé des champs et jouer les filles de l'air, c'est décidé, on te quitte, moi.
ma boîte de mouchoirs. Soi et ton cœur de granit, circuler à rien avoir. Je lève mon verre à l'aventure qui fait peur et me rassure. Tant pis pour tous les deux, ensemble on ne sait pas être heureux. Tu ne t'y attendais pas et moi je n'en reviens pas.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Francis Venat, parlons de votre maman, Lucie. Alors, elle est née le 11 avril 1922. Elle a un frère et deux sœurs. Donc, son père, c'est Raphaël, c'est le fameux grand-père dont vous avez parlé avant la pause musicale. À 13 ans, Lucie, elle garde les vaches en sabot. Bon, l'éducation pensionnat religieux, 3 ans à Autun, où elle est pétrie d'une grande piété, elle adhère, bon, elle n'a pas tellement de choix, mais elle adhère à la morale de l'époque, une morale très, très cadrée, très, très rigoureuse. Et puis, j'avance un peu parce qu'il faut qu'on... 14 juillet 1938, elle a 16 ans, elle rencontre Élie au bal des pompiers. Alors 14 juillet, notre grande fête nationale, et c'est le début d'une grande histoire d'amour. Et c'est ce que vous allez dérouler. Vous déroulez cette histoire d'amour parce qu'ils se sont aimés jusqu'à la fin. Élie meurt avant Lucie et Francis Venat, vous avez été touché aussi par l'histoire d'amour de vos parents pour la mettre comme ça sur le papier.
Oui, oui, bien sûr, oui, tout à fait. C'était émouvant de réécouter ma mère donner ses témoignages. De lire leurs lettres aussi, hein. Ils s'écrivaient quasiment tous les jours pendant la guerre. Et alors, ce qui est frappant, si vous voulez, et d'ailleurs c'était une des causes qui a motivé l'écriture, ce qui est frappant, c'est de voir à quel point elle a 17 ans, lui il en a 22, ils se rencontrent dans des conditions, finalement le bal c'était sociologiquement, je dirais, sans un lieu de rencontre, donc il n'y a rien d'extraordinaire. Non, ce qui est extraordinaire, c'est de voir comment se déroule cette rencontre sur fond de, à la fois pour cette jeune fille qui va devenir une jeune femme, sur fond de progrès, qu'on pourrait dire aujourd'hui progrès social, c'est-à-dire qu'elle n'a pas fait beaucoup d'études, sa maman ne voulait pas qu'elle aille plus loin que le certificat d'études, mais elle a un premier emploi, sa maman avait un emploi, sa maman était blanchisseuse, donc ce sont des femmes qui se transmettent comme ça une espèce de volonté de faire, de travailler, etc., sur un fond d'innocence, de grande innocence, l'innocence des 17 ans, l'innocence qui fait que un instant peut être l'éternité par l'intensité de ce qu'on vit et par l'idée que il y a pas de finitude et par l'idée que parce qu'on vit et remplit complètement notre univers quoi. Et donc c'est ce mélange qui est très touchant et ce mélange va faire que en effet ils vont s'investir d'une certaine manière, le mot est pas bien adapté, mais ils vont se choisir et ils vont vivre ensemble par des choses d'une grande simplicité, la danse, la musique, le jazz naissant pour eux,
les promenades à vélo.
Le vélo.
Extraordinaire, ils font 100 à 150 km par jour, tous les deux, ils pédalent.
Oui. Alors, quand elle raconte ça, moi, elle me dit qu'elle était quand même épuisée. Alors, elle disait pas épuisée, elle dit qu'elle était fatiguée, mais c'était une fatigue qui passait très bien, quoi. Mais c'est vrai que le vélo a eu une importance dans leur vie, tout à fait. Oui.
Et vous écrivez, à 16 ans, ce qui comptait, alors vous faites parler Lucie, alors tantôt vous traduisez ce que votre maman vous a dit ou vous reproduisez parfois certains passages de lettres. Hein. À 16 ans, ce qui comptait, c'était nos lettres, nos jeux de l'attirance, du désir et de la jalousie, et tout le cours des choses, je le voyais à travers eux.
Oui, exactement.
C'est aussi, alors, je vous interromps, Francis, mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils sentent quand même la montée des dangers. Il y a l'innocence, mais justement, cette innocence, tout d'un coup, elle commence à vaciller. Mmh. Et pourtant, l'idée de bonheur était plus forte que toutes les menaces.
Oui. Ça, c'est moi qui l'écris, mais j'essaie de retranscrire en effet assez fidèlement ce que j'ai pu ressentir de ce que ma mère a vécu, quoi. C'est-à-dire que, d'une part, à 17 ans, quand on est dans un milieu modeste, on n'a pas les moyens de décrypter la réalité. Ce qui peut être vrai aujourd'hui hein, aussi, on pourra en parler éventuellement. Et donc, on ne croit pas forcément qu'un danger arrive. On a les signaux. Par exemple, il se trouve qu'il y a une réunion à Évian, internationale, où on parle de la montée du nazisme. Hitler s'est révélé depuis 1923, il est arrivé au pouvoir en 1933, il a eu les pleins pouvoirs quelques mois après. Donc il y a eu l'Autriche, il y a la Tchécoslovaquie, donc il y a eu ces fameux faux accords de Munich. Bon, tout ça, si vous voulez, si aujourd'hui on en parle, on se dit, bah oui, c'était lisible, on voyait bien ce qui se passait. Sauf que la vraie vie, c'est pas ça. Quand les choses se passent, on n'est pas dans la hiérarchie de l'importance qu'on donne aux choses après, quand elles se sont passées, quand les cartes sont retournées. Quand on a 17 ans et qu'on voit ces éléments-là, ce qui est quand même important, c'est de se dire, oh oui, mais est-ce que c'est bien vrai tout ça? Ils sont réunis là à Évian, ils n'ont rien décidé contre Hitler. C'est pas... Je le dis comme ça dans le livre, c'est pas très important. Alors que ce qui est important, c'est qu'elle, elle a 17 ans, elle y croit à l'amour. Elle fait une rencontre. Et si vous voulez, dans la hiérarchie de ses impressions, de ses engagements, de ses sentiments, c'est ça qui compte. Et c'est pour ça que, si vous voulez, pour moi c'est important de le dire pour des millions de gens. Parce que on a décrit une France qui était soit résistante, soit aveugle, soit
attentiste.
Attentiste, vous voyez ça, ou collaborationniste. Mais il y a eu des millions de gens qui n'étaient pas du tout ceux-là, et qui étaient dans leur vie à eux, et qui se sont fait confisquer d'une certaine manière toutes leurs espérances, etc. etc. Et on dit aujourd'hui, ah oui, mais ils n'ont pas compris ce qui se passait. Quand même, ils n'ont pas été très courageux. Mais non, c'est pas comme ça que les choses se sont passées. C'est pas ils étaient courageux ou pas. C'est qu'ils avaient d'abord... Ils lisaient pas tant que ça que les journaux, et ils n'étaient pas tant que ça informés. On leur mentait aussi en disant, après Munich, c'est fini, c'est la paix qui est sauvée. Vous voyez, donc, il faut absolument dans un alors moi je ne suis pas historien donc il faudrait parler à un historien, mais je sais très bien que le travail d'historien c'est essayer aller rechercher le contexte dans les choses dans lesquelles les choses sont passées. Donc en effet cette idée de rien ne passera avant le bonheur qu'on vit, c'est pas du tout une espèce de on se défile, mais non, c'est voilà, la vie elle est comme ça, elle se présente comme ça, c'est comme ça qu'on veut la vivre et c'est notre vérité à ce moment-là.
Et un aspect très important chez cette femme, chez Lucie, chez votre maman, elle fait l'apprentissage de son corps parce qu'elle découvre aussi le plaisir. Et là, on rentre un peu dans l'intime, parce que l'amour, c'est un sentiment, mais il y a un moment où on se retrouve allongé et elle dit « je faisais l'apprentissage de mon corps ». Et il y a aussi cet amour très fort, cette phrase, nous en avons parlé hors micro, et il faut absolument que je la confie à celles et ceux qui nous écoutent, parce qu'elle est magnifique et elle est authentique, puisque vous l'avez isolée d'un courrier échangé entre vos parents. Si ton désir est aussi grand que le mien, nous n'aurons jamais assez de toute la vie pour nous aimer. Je la relis parce que c'est extraordinaire. Si ton désir est aussi grand que le mien, nous n'aurons jamais assez de toute la vie pour nous aimer.
Oui, c'est vous l'avez bien choisi cette phrase parce que elle exprime bien cette dimension. Si vous voulez, c'est ce que je disais. D'ailleurs, vous me faites faire un lien que j'avais pas fait, mais je vous ai parlé de l'éternité de l'instant. Bah voilà. Nous n'aurons jamais assez de la vie pour.
Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il traverse cet immense fracas de l'histoire, parce que c'est une histoire d'amour avec, en arrière-fond, en décor, les turbulences, la folie des hommes, cette Seconde Guerre mondiale, n'oublions pas, c'est 60 millions de morts quand même, c'est le continent européen dévasté, c'est une catastrophe, il faut quand même en avoir pleinement conscience. Et c'est aussi deux héros, quelque part, qui subissent le destin. Et d'ailleurs, page 83, il est question de l'impuissance d'arrêter le cours des choses qui tournent mal. Et effectivement, il faut continuer à vivre entre Paris, les allers-retours dans le Morvan. Le Morvan, c'est on s'aère, on mange un peu les légumes et on est plus heureux tout de même en province, dans la campagne, qu'à Paris, où on meurt de faim, où on essaie d'acheter du chat au marché noir.
Oui. Alors, simplement une petite nuance. Non, ce n'était pas des héros.
Mais tout
c'est
de même,
difficile, la définition.
Votre papa s'engagera dans la résistance un petit peu plus tard.
Non, il aura des actes courageux. Il ira au STO, service du travail obligatoire, pour des choix sur lesquels on pourra revenir. Ensuite, il a pris une carte de réfractaire. Et il aura l'occasion de faire valoir ses... Il était mitrailleur, il avait passé un examen mitrailleur, et donc il aura l'occasion. Mais non, il n'a pas été résistant.
Disons qu'il a pris des risques.
Oui, si vous voulez, moi je... Oui, mais ce que je dis dans le livre du côté de la résistance, c'était ce qu'on a fait, nous... En nous préservant, en vivant notre amour, en ayant des enfants, c'était notre forme de résistance. C'est-à-dire que, si vous voulez, là où il n'y a pas eu de résistance, d'une quelconque manière que ce soit, c'est devenu justement ces gens qui ont accepté, des gens qui se sont couchés, ou des gens qui ont collaboré, ou des gens qui ont profité du système. Ceux-là, ils n'ont pas résisté d'aucune manière. Et même, c'était l'inverse. Mais des gens qui sont attachés à pas faire d'erreur, de pas faire de saloperie, quoi, disons, et qui ont continué à vivre. Bon, ils ont fait deux enfants pendant la guerre, à essayer de bien élever leur enfant, à vivre leur amour. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que d'une certaine manière, c'était ça une forme de résistance. Alors c'est pas, ça en fait pas des héros. Mais vous voyez, même dans la vie de tous les jours aujourd'hui, ça nous arrive de baisser les bras. Baisser les bras, ça veut dire, ça peut aller jusqu'à faire une petite déprime, une petite dépression, etc. Là, il y avait des millions d'occasions de baisser les bras. Mais ils n'ont pas baissé les bras. Alors ça, c'est une forme de résistance. Et d'ailleurs, le fait de ne pas baisser les bras, ça va leur donner de l'énergie après la guerre, quoi. On en reparlera peut-être.
Vous écrivez, c'est Lucie qui écrit cela. Nous étions emportés dans une effroyable histoire, un brouillard qui ne se levait pas et nous, une France invisible qui survivait.
Oui, tout à fait. Merci aussi de lire ce passage-là parce que, comme le passage tout à l'heure, le caractère inéluctable, impossible, à chape de plomb, et c'est ça que j'essayais de faire dans le livre, c'est de faire en sorte de mettre Lucie et les gens qui gravitent autour d'elle dans la situation où il pouvait être en effet du brouillard, du truc qui... Vous voyez, imaginons qu'aujourd'hui, on ne pourrait pas faire l'émission aujourd'hui. On aurait autour de nous des gens qui passeraient avec des mitraillettes, etc. Et des gens qui symboliseraient la puissance infinie comme pouvait symboliser l'armée allemande. L'armée allemande était imbattable. Donc, quand les Allemands étaient là... ça voulait dire qu'ils l'étaient pour tout le temps. Ils ont cru au début à la paix, mais ils ont mal lu l'histoire. Ils n'ont pas compris que c'était qu'un armistice et que ce n'était pas du tout la paix. Et en effet, ils étaient en situation pendant au moins jusqu'en 40, fin 43, quoi, parce que fin 43, quand même, une chose qui bascule, mais avec l'idée que ça ne terminera jamais. Et vous voyez, être dans un contexte comme ça, où c'est quand même la mort qu'on risque, hein, si on fait une grosse bêtise aussi. Bon. Et garder une énergie et un dynamisme pour dérouler une vie qui soit honorable et faite de puissance amoureuse et de puissance pour élever ses enfants, voilà. Ça... Et je tiens à le dire parce que je pense qu'il y a des millions de gens qui ont été comme ça, dont on ne parle pas. Je vais faire une petite parenthèse. L'histoire, elle est écrite. Ce sont des faits, l'histoire. Donc c'est des vérités. Mais ce qu'on en dit, c'est écrit, c'est fabriqué. Le plus honnêtement possible par plein de... Bon. Mais à la fin de la guerre, tout le monde dit comme De Gaulle. Tout le monde dit la France est résistante. Quand sort un film comme en 73, Le Chagrin et la Pitié, tout le monde dit... La France, c'était Clermont-Ferrand. Clermont-Ferrand, c'était des collabos ou des gens qui ont fait des dénis de réalité. Ensuite, quand Mitterrand dit à El Kabbadj dans une émission « Mais non, l'État français n'était pas responsable, arrêtez-vous bon. !» Et quand ensuite Chirac dit « Mais si, l'État a été responsable de la rafle du Vélib !» Vous voyez, quatre séquences de discours qui montrent que l'histoire se fabrique. Bon, je ferme la parenthèse. Et dans l'histoire que j'ai lue, moi, dans les livres, on parle rarement des histoires de ces millions de gens qui ont été comme eux, qui ont... D'ailleurs, parfois, qui ont aidé... Par exemple, il y a une scène où elle revient du Morvan, justement. Elle est à la gare de Lyon et il y a un homme qui lui prend le bras. Et là, elle est complètement figée. Enfin, elle se fige, elle a peur. Les Allemands sont là, dans la gare, évidemment, qui surveillent. Et elle accepte que cet homme lui prenne le bras. Et puis ensuite, passe la sortie de la gare... Voilà, c'est un acte, un petit acte de courage, mais qui a existé. Si des millions de gens ont fait ça, ces petits actes de courage, ça a participé à cette renaissance de la France, à cette capacité de réagir et de pas se courber les chines, quoi. Et ça, c'est important de le dire. Et je crois d'ailleurs que dans l'histoire aujourd'hui, de plus en plus, on attache l'importance à ça. Vous savez, il y a Pierre Michon qui a écrit Les Vies minuscules, a dit... C'est grâce à ça, si on peut écouter un peu ces vies pour faire apparaître, je crois que c'est ces mots, une part de vérité. Eh bien, je pense que c'est ça qui se fait un peu, c'est un peu ça que j'ai aussi voulu faire.
En tout cas, effectivement, comme l'écrit Lucie, on se faisait la guerre entre nous, les Français, et elle dit également les difficultés à vivre nous enfermait dans une vie quasiment animale. Oui. Là aussi, on revient à l'animalité,
oui, tout
vie
à fait.
Quasiment animale.
Oui, oui, parce que ben, d'autres l'ont écrit, hein, je pense à Simone de Beauvoir, qui avait d'autres possibilités de vivre bien pendant la guerre, mais qui dit il fallait bien qu'on mange, quoi. Il fallait bien qu'on mange, bah oui, c'est ça la vie animale. Hein. C'est penser qu'il faut aller chercher des pommes de terre, il faut faire cuire, et il faut essayer de récupérer ce qu'on peut récupérer. Quand on a deux enfants, il faut accepter de payer parfois très cher un œuf, etc.
Oui. Nouvelle virgule musicale dans Wagon Livre, nous sommes ensemble jusqu'à midi avec Francis Venat pour Moi, Lucie, 17 ans en 1939, La guerre et après, disponible aux éditions de l'Harmattan. Nous revenons dans quelques minutes.
I've been holding out so long, I've been sleeping all alone. Lord, I miss you. I've been hanging on the phone, I've been sleeping all alone. I won't kiss you, yeah. Well, I've been hiding in my sleep, been staring at my dreams. Lord, I miss you. I've been waiting on the hall, been waiting on your call when the phone rings. Just a friend of mine says,
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Toujours à bord de Wagon Livre, l'émission littéraire de Radion, ce samedi matin, avec notre invité Francis Venat pour Moi, Lucie, 17 ans en 1939, La guerre et après, aux éditions de l'Harmattan. Francis Venat, peut-être un petit morceau, une petite lecture, et puis nous reviendrons sur la vie de vos parents, Lucie et Élie.
Ah oui, volontiers. Alors, écoutez. Il y a un morceau qui me tient à cœur dans le livre, c'est l'après, justement. Comme vous l'avez dit en introduction, hein, j'ai souhaité qu'on puisse réécrire l'histoire de mes parents, de ma mère surtout, pendant la guerre, parce que c'est très déterminant, évidemment, de ce qui s'est passé dans leur vie. Mais j'ai voulu faire l'après parce que, aussi souvent, par exemple dans les livres d'histoire, où on dit, voilà, la guerre est terminée, donc on tourne la page d'une certaine manière et puis on reprend les choses comme si de rien n'avait été, quoi. Or, bien sûr, on sait très bien que toutes ces choses-là traumatisent, laissent des traces indélébiles et qui poursuivent les gens toute leur vie. Et j'ai voulu justement vous lire un petit passage sur l'après. Donc la guerre est terminée. Ma maman est assez âgée dans la séquence que je vais vous lire. Elle est dans son jardin à Anneau. Elle est sur une balançoire et c'est d'ailleurs une des photos qui est sur le site internet que vous pouvez référencer. Elle fait de la balançoire et elle a des pensées vagabondes, hein. Et voilà le texte. Je n'ai jamais oublié la promesse que je m'étais faite de lire et d'écrire. Sur la table de jardin en plastique blanc, j'ai posé le cahier sur lequel je m'applique à écrire. les boîtes où je range mes notes, 1000 morceaux de papier et nos lettres que j'ai conservées. Des années dont il me reste des souvenirs, émaillés de joie, de peine, que le passé m'adresse de temps à autre. Des images de notre innocence enfantine aussi, cette innocence qui nous affranchit du quotidien et du temps, pour ouvrir par le détachement à une espèce d'éternité. Et le souvenir de la guerre, que l'on chassait et qui revenait, tenace. Par notre silence, les enfants sont restés longtemps indifférents à ce passé. Un jour cependant, Anne, qui parfois m'invitait à aller au cinéma, à la sortie du film « Le chagrin et la pitié », m'interrogea vivement. La discussion fut tendue. « Mais les Allemands, vous les acceptiez ? Les rafles, les exécutions, vous n'avez rien fait contre les Allemands, maman. Vous êtes mariés, vous avez fait des enfants. » Nous n'avons jamais repris cette discussion. Je ne voulus pas. Anne ne m'a plus questionné. Elle voulait sans doute respecter ma gêne. Peut-être se reprochait-elle son impétuosité à me questionner et finalement sa difficulté à comprendre, elle aussi. Je pense qu'elle n'a pas gardé à l'esprit que nous aurions été condamnables. Je n'avais aucune justification pour ce que l'on avait fait ou pas fait. Nos égoïsmes, vouloir nous préserver, coûte que coûte, nos générosités à nous entraider, notre amour, nos projets, mais sans armes pour comprendre. Nous avions vécu plusieurs années dans un monde infernal, analphabète de nos propres vies, pas préparé aux mensonges du monde. Avec le temps, j'ai appris à considérer notre passé. Comment il est facile d'inventer des mensonges, mais difficile de s'en défaire, quand la vérité ne se livre parfois que dans la douleur. Jusque dans ce terrible enfer de la guerre, nous avions voulu tenir les choix de notre vie. J'ai cru à notre amour, mais notre séparation, Élie à Berlin, moi à Paris, ma deuxième grossesse, il a bien fallu que je me résigne, que je me soumette. Heureusement. Nous avions d'autres occasions pour respirer notre passé, celui que nous aimions.
Merci Francis Venat pour cette lecture. Respirer notre passé, c'est cette respiration que vous offrez aussi. Respiration aussi pour vous qui, peut-être parfois, vous a coupé le souffle lorsque votre maman vous a confié des épisodes qu'elle n'avait jamais évoqués. Et elle s'est peut-être libérée aussi en vous parlant d'un avortement qu'elle avait fait. Et ça, c'est quelque chose quand même de stupéfiant, parce qu'elle n'en avait jamais parlé à ses enfants. Et ça, vous le découvrez au moment où vous l'interviewez, dans le but d'écrire l'histoire de vos parents. Est-ce que je peux vous demander de revenir sur cette confession de votre maman ?
Oui, alors évidemment, respirer le passé, c'est laisser remonter des choses qui viennent d'elles-mêmes. Hein. On aime aussi reprendre, respirer le passé des choses qu'on a aimées, mais celles qu'on n'a pas aimées reviennent. Hein. Comme je le dis pour la guerre, c'est tenace. Et cet épisode, en effet, vous avez raison, elle me l'a confié, en tout cas à ce moment-là. Je ne le connaissais pas. Et je crois que c'est parce que, entre elle et moi, bon, elle avait avec ses enfants une relation de très grande proximité. Et à cette occasion-là, entre elle et moi, il y avait une relation plus grande encore d'intimité qui se jouait. Et donc de liberté pour elle et sans doute de soulagement. C'est-à-dire que j'ai compris qu'elle n'aurait pas voulu qu'on retienne de sa vie que des moments trop heureux. La vie a été difficile, mais pas que par la guerre. Elle avait été difficile par la condition aussi de femme qui, comme on l'a déjà évoqué, s'est fait confisquer d'une certaine manière sa vie et son devenir, et qui se retrouve après la guerre avec 1, 2, 3, 4, 5 enfants, avec cette seule solution qui était l'avortement. Alors ça pose un problème pour un fils de retranscrire cette scène, évidemment, parce que ça touche l'intimité de ma maman. Mais d'une certaine manière, expliqué, présenté, c'est qu'elle avait en effet le sentiment de s'en libérer, mais aussi de me le passer pour que je le dise, parce que c'est important pour elle que ça se sache. Et Et si vous voulez, il y a un moment donné où c'est plus une dimension individuelle, c'est une dimension des femmes. Ce livre, c'est aussi un livre de la condition féminine des milieux modestes qui traversent la guerre, etc. Et donc, le fait de le révéler, c'est grâce à ça que finalement, on le fait savoir et qu'on peut lutter contre ces conditions qui étaient ignobles à ce moment-là. Enfin, on sortait d'une période où l'avortement valait la peine de mort. Et l'avortement se faisait dans une condition terrifiante, où il n'y a plus la peine de mort à ce moment-là, mais elles risquaient leur vie quand même, les femmes. Et vous voyez, l'histoire après, dans les années 70, a montré qu'on pouvait, la société pouvait dépasser politiquement ces choses ignobles. Et je crois donc, en tout cas moi j'ai pris mes responsabilités, me dire, c'est moi qui ai pris la plume en disant « je » pour elle, et je dois dire que c'est avec une certaine fierté que je me suis dit, elle me l'a dit, elle l'aurait dit. Elle aurait eu le courage de le dire à d'autres et je le fais pour elle. Voilà.
Francis Huena, vous avez pris la plume, mais quelque part aussi, vous avez pris des risques à l'égard de vos frères et sœurs en livrant ce témoignage. Comment ce livre, aujourd'hui, est-il perçu ? Comment votre ouvrage a-t-il été accueilli par votre famille, que vous remerciez d'ailleurs au début de l'ouvrage?
Oui, oui, je les remercie parce que, vraiment profondément, parce que d'abord, ils ont eu la retranscription des enregistrements sur dictaphone. Je leur ai dit que je souhaitais aller plus loin. Ils n'ont eu aucun souci avec ça. J'ai plutôt même eu des encouragements. Quand le livre a été écrit, ils l'ont eu aussi. Bon, évidemment, il y a des scènes où, qui peuvent toucher l'intimité et qui ont pu à un certain moment provoquer des discussions, mais je crois que je peux dire en leur nom qu'ils sont heureux que j'ai écrit ce livre, parce qu'ils en font, c'est l'espèce de legs familial. Avec l'idée, c'est un sujet qu'on n'a pas abordé, mais c'est aussi un legs aux enfants. Un legs aux enfants parce que d'abord, les enfants, quand ils connaissent l'histoire de leur famille, ils connaissent d'une certaine manière aussi leur histoire à eux. Mais aussi, c'est important, vous avez parlé du brouillard, de cette chape de plomb, etc. L'histoire, on dit que l'histoire ne repasse pas les plats, au sens qu'elle ne donne pas des opportunités, mais l'histoire peut se reproduire dans son caractère ignoble, sans qu'on s'en rende compte. Les basculements peuvent être des basculements lents, presque pas perceptibles. Alors on sait qu'il y a eu des... par exemple, dans les moments d'élection, surtout l'élection présidentielle, on sait qu'il y a des tendances qui s'expriment et qui peuvent être l'expression de quelque chose, d'un futur qui pourrait être ignoble. Mais c'est important de leur dire, vous voyez, attention, c'est ça qui peut se passer, c'est ça qui peut arriver, ça ne sera pas Hitler, ce ne sera pas les nazis, ça c'est une page qui a été tournée, mais ça peut être d'autres formes d'oppression, d'une forme de perte de liberté. La liberté, c'est quelque chose que d'autres ont dit bien mieux encore, mais la liberté c'est quelque chose de très précieux qui peut disparaître sans trop qu'on s'en rende compte. Et quand le déclic est passé, quand le cliquet historique est passé, quand la bascule a été faite, il est trop tard.
Vous écrivez, c'est dans le chapitre 34, c'est Lucie qui écrit, elle a alors 77 ans, elle est seule dans sa maison d'Anneau, veuve d'Eli, votre père qui a disparu. Elle écrit « Le temps s'est mis à passer très vite, c'est un peu le sort des parents, je finis par m'en faire l'idée. Les enfants ont grandi, ils ont appris, nous leur avons donné notre temps, nous leur voulions une vie aimée. Nous sommes un peu restés au bord de la route, à travailler, à les regarder » et à les aider. Mmh. Et finalement, c'est le plus bel hommage qu'un fils peut faire à ses parents, ce livre, Francis. Émotion, effectivement. Je peux le comprendre, mais je trouve, et je le dis, et je crois que les auditrices et auditeurs l'auront compris, c'est que cette histoire aussi m'a beaucoup touché, et je crois vous l'avoir dit au téléphone, et avoir beaucoup insisté pour enregistrer un numéro de Wagon Livre sur l'histoire de ce couple, cette belle histoire d'amour. Et je rappelle cette phrase extraite d'une lettre. « Si ton désir est aussi grand que le mien, nous n'aurons jamais assez de toute la vie pour nous aimer. » La boucle est bouclée, quoi, finalement.
Oui, merci. Vous avez fait une très bonne lecture de ce livre. Je suis très heureux de ça. Je suis très heureux d'arriver à transmettre c'est en effet ces vibrations de la vie, ces sentiments, ces difficultés, quoi.
Il y a aussi, bien sûr, toujours, bien sûr, le poids de la guerre. Vous avez retranscrit un souvenir que votre grand-mère vous avait confié. C'est cet épisode aussi terrible de l'épuration, de cette vengeance d'un grand nombre de Français à l'égard de Français qui, effectivement, s'étaient compromis ou dans le marché noir, s'étaient enrichis avec les Allemands. Il y a retranscrite par vous une scène violente, il faut le dire, qui montre un vieux bonhomme, c'est un vigneron qui a vendu son vin aux Allemands. Et là, il y a vraiment une sorte de folie des hommes aussi.
Oui, alors cette scène, elle est en effet inspirée d'une scène que m'avait décrite ma grand-mère et que j'ai voulu réintroduire dans le récit de mes parents. Donc, si vous voulez, le contexte a un peu changé. Mais l'homme qu'on traîne derrière un char à bœufs dans la ville, c'est la transcription d'une vraie scène. C'était une voiture à ce moment-là, mais ça a été une vraie scène. Alors, si vous voulez, c'est pas la folie des hommes. C'est ça qui est terrible. C'est-à-dire que, bon, on peut dire que, par exemple, le grand ordonnateur de ces atrocités, Hitler, avait une personnalité peut-être qu'on pourrait associer à de la folie. Mais là, en l'occurrence, c'est pas Hitler qui fait tout ça. Ce sont des hommes et des femmes de tous les jours. Des hommes et des femmes qui n'étaient pas fous. Donc c'est pas la folie. C'est ça qui est important, je crois, de saisir, et en particulier pour les enfants. C'est-à-dire que c'est les gens qui vivent la vie de tous les jours, qu'on peut rencontrer dans la vie aujourd'hui, et qui, dans des situations historiques particulières, peuvent très bien commettre des atrocités. Et en particulier, il y a deux éléments que j'essaye de dire. Par exemple, les hommes qui ont voulu se venger contre les femmes. J'écris en 4-5 lignes comment ce mécanisme a pu se mettre en place. Ces gens n'étaient pas fous. Et même ces gens aimaient sans doute par-dessus tout les femmes. Mais d'abord, on est dans un contexte de vie sexuelle et sentimentale qui était quand même bourré de tabous, quoi. Mais ils n'ont pas supporté que certaines des femmes se donnent à d'autres à qui ils faisaient la guerre sans qu'elles se donnent à eux qui pouvaient les amener intensément. Voilà, vous voyez, donc c'est pas de la folie, c'est des mécanismes qui amènent à ça. Comme les hommes, par exemple, qui vont tuer ce vigneron. Quels sont les mécanismes ? Eh bien, il y a un mécanisme de grande hypocrisie qui est que si à ce moment-là, moi je montre par un acte, entre guillemets, courageux, qui est de pendre un homme, etc., si je montre que j'ai été contre lui, je me blanchis aux yeux des autres. Donc, moi qui ai pu faire des saloperies, si je fais un acte, une fois de plus, entre guillemets, courageux en tuant un pauvre bonhomme, je fais la démonstration sur la place publique que je me suis bien comporté pendant la guerre. Quoi. Donc, il y a une espèce de malheur d'hypocrisie là, qui est terrifiant.
Il y a quelques semaines, dans Wagon Livre, nous avons diffusé un entretien avec Colomb Buschneck qui a écrit sur son père. Son papa qui était un petit garçon pendant l'occupation, et le roman a paru aux éditions Stock et a pour titre « Les guerres de mon père ». Et effectivement, elle aussi se pose la question, comment des préfets, pendant l'occupation, qui étaient des bons papas, des papas aimant leurs enfants, ont-ils pu signer des listes d'enfants juifs qui sont partis à Drancy dans les camps de concentration? C'est une vaste question qui, je crois, va polluer encore l'histoire de France. Vaste, vaste question.
Sans doute. Sans
gros,
doute, ouais.
Gros débat. Francis Venat, nous sommes au terme de ce numéro de Wagon Livre. Un grand merci à vous d'être venu d'Anneau à Avallon, ici, au moment où on a enregistré, c'est-à-dire dans ce magnifique parc de l'hôtel Avallon-Vauban. Je le dis, je remercie Christiane et Dominique Barbe, parce que nous n'étions pas en studio, nous étions dans le parc en pleine nature, là, courant août. Merci Francis d'être venu d'Anneau pour l'enregistrement de cette émission. Je rappelle le titre de votre ouvrage, une autofiction. Moi, Lucie, 17 ans en 1939, La guerre et après, aux éditions de l'Harmattan. Et je signale aussi, parce que je l'ai reçu en service de presse et j'ai promis que j'en ferai mot, c'est l'histoire d'une femme, une autre femme, hein, c'est Marie-Antoinette. C'est un petit quiz aux éditions Pierre de Taillac. C'est un tout petit ouvrage de poche Grégoire Tonnat. Marie-Antoinette était une belle, était-elle une belle femme? Combien de toilettes différentes porte-t-elle par jour? Savez-vous qui est Axelle de Fersen? Marie-Antoinette de Grégoire Tonnat aux éditions Pierre de Taillac. Francis Venat, un dernier petit mot très rapide, s'il
oui,
vous plaît.
Oui, d'abord, tout mes remerciements pour cette invitation. Remerciements à votre radio. Je fais des remerciements aussi à ma famille, aux gens qui m'ont aidé et aussi aux gens d'Anno. Alors, Anno, que je continue à aimer, on y revient évidemment très souvent. Et puis, aux personnes du musée des nourrices qui m'ont accueilli et grâce auxquelles, en effet, je vais présenter ce livre, soit à la fête du livre d'Anno, soit à Autun, soit à d'autres fêtes de livres. Et puis, aux commerçants, à la buraliste d'Anno, aux primeurs d'Anno aussi, qui ont pris mon livre et qui l'ont présenté, au libraire de Saulieu, à Vallon aussi, qui est à Château-Chinon aussi, c'est le Grain des Mots, je crois, cette librairie. Donc, merci à tous ces gens que j'ai eu l'occasion de rencontrer à l'occasion de la sortie de ce livre, et puis à vous finalement. Merci beaucoup.
Merci Francis Venat. Prochain rendez-vous de Wagon Livre, eh bien samedi prochain, 29 septembre, nous serons avec Edith Delahayronnière pour un essai intitulé « Fugue romaine ». C'est une déambulation érudite dans la ville de Rome, une redécouverte des lieux secrets de Rome, la Rome antique, la Rome du paganisme. C'est avec Edith Delahayronnière là. Semaine prochaine, samedi 29 septembre à 11h sur Radion. Très bonne journée à toutes et à tous. Au revoir. Merci d'avoir été avec nous.
Wagon Livre, votre émission littéraire. Wagon Livre, un voyage au cœur de l'actualité littéraire. Présenté par Yannick Petit. Wagon Livre, c'est tous les samedis de 11h à midi sur Radion.